Chapitre 54. Cathédrale de Montréalais, Palerme, Sicile. Le père Paolo Angelo s'épongea le front, hésitant sur l'attitude à suivre. Les hommes s'agglutinaient autour des cinq Mercedes comme des abeilles. Des frelons, plutôt, pensa Paolo Angelo. Un essaim mortel. Ces types n'étaient pas là par hasard. Sans doute, les tueurs aux trousses de Zaki Kabi et de ses deux compagnons de fuite avaient-ils fait appel à la mafia locale pour les seconder, et ils n'avaient pas lésiné sur les moyens. 20 hommes au bas mot. Quelle valeur pouvait bien avoir ce Zaki Kabi pour être traqué non seulement par Interpol, par le Parlement mondial des religions, mais également pour que des truands soient prêts à intervenir en plein jour dans un lieu sacré? Le père Paolo Angelo passa encore son mouchoir trempé sur son crâne. Il avait déjà envoyé un SMS au Parlement, directement à Viorel Unor, le président. Mais s'il se trouvait en Australie... Fébrilement, ses gros doigts pianotèrent un nouveau message, le même. Un pressant appel au secours. À cette heure, la cathédrale de Montréalais était bondée de touristes. Si le père Paolo Angelo ne connaissait pas les truands slaves, il connaissait les siens. S'ils étaient suffisamment payés pour cela, il n'hésiterait pas à tirer dans la foule. Que faire? Attendre? Attendre quoi? Les tueurs s'éloignaient maintenant de leur voiture et se déployaient en arc de cercle autour de l'église. Montréalais était un véritable cul-de-sac. Le filet se resserrait. Lui seul pouvait encore empêcher le massacre. Vite, pensa Paolo Angelo. Il remua aussi rapidement qu'il put ses 120 kilos et traversa la nef. Ikabi se tenait toujours devant les fresques de l'arche, flanquées de Pareia et de Serval. Une cible idéale. Le père Paolo Angelo bouscula sans ménagement un touriste qui, comme tous les autres, levait les yeux au plafond. Il posa ses doigts boudinés sur l'épaule d'Ikabi. Sa tirade fut la plus directe possible. Il ne pouvait pas se permettre de perdre une seconde.
« Venez, suivez-moi, tous les trois !»
Devant le regard stupéfait des Français, le curé continua sur le même ton d'urgence.
« Par la porte de droite, vite! Elle donne directement sur le cloître. Ils ne vous chercheront peut-être pas là !»
Contre toute attente, les trois fuyards ne posèrent aucune question. Ils suivirent le prêtre qui remontait à nouveau vers l'abside, renversant sur son passage toutes les chaises de bois posées sur les dalles de marbre. Il passa sous les colonnes corinthiennes en sortant une grosse clé de fer.
« Le cloître est encore fermé à 7 heures, » dit-il d'une voix haletante. « Nous avons une chance. »
Il s'arrêta net devant l'imposante porte de bronze, précédant d'un mètre Zach, Cécile et Arsène. D'un geste sûr, malgré la panique qui agitait tout son corps, il enfonça la clé. Elle tourna en un cliquetis de lourde machinerie métallique.
« Vite !» articula encore le prêtre. « C'est le seul accès au cloître. Je fermerai derrière vous. Encore 1 mètre et vous êtes sauvés. »
Les trois fugitifs hésitèrent. À peine une seconde.
« Après vous, messieurs !» grinça une voix dans leur dos.
Le père Paolo Angelo se figea, livide. Ludo Rutelli et Gino Maletra, deux truands de la pire espèce, se collaient à eux comme de vulgaires touristes appréciant la promiscuité. Eux seuls pouvaient distinguer les armes pointées à hauteur de leur ventre. Deux tueurs slaves se rapprochaient, coupant toute retraite en direction de la nef. Le gamin blond au sourire de Christ et un moustachu.
« Excellente idée, mon père !» fit Rutelli. « Entrons tous dans le cloître. Nous y serons beaucoup plus tranquilles. »
Le dernier tueur referma derrière lui la porte de bronze et la verrouilla. Les mercenaires n'avaient rien laissé au hasard. À l'exception des 2 hommes restés dans l'église pour faire le guet, les 18 autres étaient entrés dans le cloître. 18 tueurs armés, entraînés, déterminés, contre 4 proies, dans une cour carrée sans aucune issue. La partie était pour le moins inégale. Le tueur blond s'approcha de Zach, Cécile, Arsène et du père Paolo Angelo. Un démon au visage poupin. Il observa les alentours d'un long regard circulaire.
« Joli endroit pour mourir, non ? »
dit-il en anglais. Le soleil du matin inondait de lumière la cour intérieure. Le cloître de Montréalais était une cour fermée d'une 50aine de mètres carrés, dont le déambulatoire, miraculeusement conservé, était soutenu par plusieurs centaines de colonnettes toutes décorées de motifs byzantins, arabes et normands.
« J'étais pas venu depuis ma communion !»
ricana Gino Maletra dans un anglais hésitant.
« Mais vous avez de la chance, s'il y a bien un endroit où j'aimerais quitter cette terre, c'est ici. »
Le cloître avait été conçu comme un îlot de fraîcheur. Maletra désigna les plantes méditerranéennes au centre du jardin et la grande fontaine dans un angle.
« La fontaine de Jouvence !»
fit-il en s'adressant au tueur blond.
On raconte qu'elle donne la jeunesse éternelle. »
Il gloussa de nouveau.
« On pourrait les noyer dedans, histoire de vérifier. »«
Finissons-en, » coupa Morad. Il examina ses trois prisonniers. Le père Paolo Angelo se tenait en retrait, accroché à la croix sur sa poitrine comme à une bouée pendant le déluge. La voix de Morad s'éleva dans le ciel avec le timbre cristallin d'un soliste prépubère.
« Mademoiselle Serval, Monsieur Icabi, Monsieur Pareja, enfin nous nous rencontrons. Les premiers ordres étaient de vous capturer vivant, de vous torturer pour récupérer certaines pièces importantes, le rapport RS2 à 2014, des fragments de l'Arche de Noé. Mais hélas, les ordres ont changé. Nous n'avons plus le temps. Nous avons trop traîné. Mon patron grogne, vous comprenez? On doit simplement vous abattre. »
Il avança et attrapa le sac que Zach serrait dans ses mains. Il fouilla à l'aveugle et poursuivit.
« Vous êtes tellement prévisible. Peut-être conservez-vous sur vous tout ce que nous cherchons. »
Zach ne scia pas. Morad releva la tête et cria.
« En joue !»
9 revolvers et 8 fusils à canoncier se pointèrent sur eux. C'était terminé.
« Désolé, » murmura Zach.
Sa main droite chercha celle de Cécile. La chercheuse l'accepta, incapable de la moindre autre pensée cohérente.
Tout allait donc s'achever ici, bêtement.
La dernière image qu'elle vit la surprit. Zach tenait également la main d'Arsène Pareja. Devant eux, Morad collait son téléphone à son oreille.
« Une seconde encore, messieurs, je téléphone à quelqu'un qui va adorer le bruit de la fusillade. »